Depuis quelques années, je suis ténor lyrique amateur. Je pourrais vous chanter quelque chose, mais il faut quand même que la voix s'échauffe pendant une demi-heure, ça prend pas mal de temps. Et en général, effectivement, les chanteurs lyriques ne sont pas des penseurs, au sens de l'intellectuel, si vous voulez. J'en connais qu'un, c'est Fischer d'Escarlo, qui est baryton. Pavarotti n'est pas un intellectuel. C'est important de dire ça d'emblée parce que ça va nous poser d'emblée la question de ce qui se passe dans notre rapport à l'autre. Puisque vous savez que dans notre rapport à l'autre, ce qui se passe, c'est qu'on pense, justement. Alors que dès qu'il s'agit de se mettre à chanter, un peu comme je le fais actuellement, on est seul sur une scène, on a quelque chose dans la tête à dire, ou à chanter, bien sûr. Comment ça va sortir? Il y a une musique avec une partition, bien sûr. Mais vous savez que c'est pas ça, la musique, c'est pas ce qui est écrit sur la partition. La musique, c'est autre chose. Faire de la musique, c'est avec ce qui est écrit sur la partition, arriver à transmettre quelque chose, à faire passer quelque chose. Alors pourquoi comme ça je pousse ma chansonnette ainsi? C'est parce qu'il y a 6-7 ans à peu près. Alors, si ça m'est arrivé il y a 6-7 ans, c'est que bien sûr, c'est quelque chose qui était là. Mais je ne savais pas que je savais que c'était là. Alors, c'est un petit peu comme ça que je présentais ce que c'est la psychanalyse. Je ne savais pas que je savais que c'était là. Et je vais donc vous parler finalement d'un témoignage qui va nous permettre, je pense, de faire passer quelque chose de ce qui est en jeu, une mise dans la relation, appelons ça thérapeutique, psychanalytique, comme on voudra, c'est pas le problème, puisque vous savez, ce qui est important, c'est comment celui qui est là, dans cette position de thérapeute, de psychanalyste, de psychothérapeute, comment il se débrouille avec son rapport au savoir, puisque c'est ça qui est en jeu. Or, il y a un savoir, effectivement, particulier, qui est le savoir du corps, que l'on découvre quand on chante, pas quand on chante comme on chante habituellement, mais quand on chante, je pense, du lyrique. Alors, ça m'est arrivé un jour, comme ça, je pourrais dire que j'ai été sonné, lorsque, alors que j'écoutais depuis des années le final du Don Giovanni de Mozart, lorsque j'ai entendu quelque chose, je ne sais pas quoi, ça c'est important, le je ne sais pas quoi, dans le cri de Don Juan, qui est à la fin de l'avant-dernière scène, donc qui habituellement, on pourrait dire, clôture le Don Giovanni de Mozart, et habituellement c'est évidemment interprété, voilà le penseur que nous sommes tous, comme la culpabilité, comme le remords, comme le cri de quelqu'un qui bascule dans la GN, il est vraiment irrécupérable, ça c'est la position, on va dire, moïque, du penseur, voire surmoïque. Et ce jour-là, je ne pourrais d'ailleurs pas le dater, mais ce n'est pas le problème, ce jour-là, j'ai entendu dans ce cri, c'est l'importance, la valeur du cri, c'est qu'il n'y a pas les notes à chanter. Il y a A, c'est tout. Il y a une voyelle. Et j'ai entendu quelque chose, sans doute c'était lié à tel ou tel interprète, mais j'ai entendu quelque chose de complètement paradoxal, qui est un silence. C'est-à-dire que j'ai entendu ce que Lacan dit qui soutient le cri, c'est-à-dire le silence. C'est-à-dire que le cri est en fait un silence. Un silence qui s'entend avec du sonore. Vous voyez, on est complètement dans un paradoxe. Alors à partir de là, effectivement, s'est développé un certain nombre de choses. Je chantais avant, bien sûr, mais pas sans plus, je chantais comme tout le monde. À partir de là, je me suis remis complètement à la musique que j'avais connue quand j'étais adolescent, piano, l'orgue et tout ça. Donc j'ai acheté un piano, ça s'est venu comme ça, ça s'imposait. Et j'ai rencontré un chanteur d'opéra qui m'a dit « Mais tu n'as pas du tout une voix de baryton, tu es ténor. » Je ne savais pas ça, tu es ténor. Et depuis, avec ce chanteur d'opéra, je travaille toutes les semaines. Et donc c'est ça qui me... C'est ça que j'ai cueilli quelque chose. Et je trouve qu'il y a une étrange, j'insiste sur le mot étrange, parce que ça ne va pas de soi du tout, un étrange nouage entre la pratique, c'est-à-dire le fait d'entendre quelqu'un qui parle et le fait de chanter. Non pas d'écouter quelqu'un qui chante, c'est pas pareil. Je vais essayer de vous expliquer tout ça. Alors, ce que je vous dis habituellement, comme je le disais tout à l'heure, ça n'est pas abordé. Je ne vais pas vous faire quelque chose de, je vais vous faire quelque chose de très costaud là, sur le sonore, les fréquences. C'est pas du tout ça qui nous intéresse. Ça, c'est l'intellectuel qui pourrait vous faire ça. Hein. C'est l'IRCAM, etc. Bon, c'est pas ça du tout. Je vais essayer de vous transmettre ce qui se passe quand quelque chose qu'on appelle la voix. Moi, je pense que je ne sais pas comment c'est. Je dirais plutôt qu'on produit du corps. Et non pas là, c'est pas la voix, du corps, j'essaie de vous expliquer ce que ça veut dire. Et c'est étrange parce que il y a quelque chose du même ordre, si on n'est pas trop sourd, on est toujours sourd, si on n'est pas trop sourd, qui a lieu dans ce qu'on appelle le transfert, c'est-à-dire dès que quelqu'un se met à parler, vous parle, et que vous lui parlez. Habituellement, alors je reviens aux penseurs, il me venait même au censeur que nous sommes tous dès que nous pensons. Dès qu'on pense, on censure. Il n'y a pas d'autre solution, c'est comme ça. Donc il n'y a pas du tout à dire que c'est pas comme ça que ça doit être, c'est comme ça. Hein, on peut tout à fait faire un mot d'esprit et dire que nous sommes que nous n'arrêtons pas d'être dans la dimension de la pensure. Tout à fait. Ça, c'est évident. Mais ça ne change pas grand-chose de dire ça. Donc, quand nous écoutons quelqu'un qui vient nous parler, alors il va nous parler de choses plus ou moins, souvent de façon assez pathétique, des choses pathos au sens de la souffrance. Hein. Donc toute la question va être, à ce moment-là, comme à l'opéra, comme vous êtes là maintenant, qu'est-ce qu'on entend ? C'est ça la question. Et je dirais même, qu'est-ce qui se fait entendre ? Habituellement, vous savez, on est pris par le sens. Et donc, se met en route notre pensée habituelle. Et comme nous sommes pris par le sens, nous comprenons, nous prenons quelque chose. Et la question qui se pose par rapport à cet atelier et aux séjournées, est-ce que nous ne nous dégageons pas de quelque chose ? Pour autant que la question, c'est d'être engagé, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce gage qui est en jeu ? Dès que quelqu'un nous parle, que ce soit dans notre cabinet, mais aussi, je veux dire, habituellement, par exemple, maintenant je suis en train de vous parler, qu'est-ce qui est en jeu ? Alors, ça renvoie à cette chose qui intellectuellement est facile à comprendre, qui est que tout être parlant, alors les raisons, c'est assez compliqué à élaborer, si on pourra en dire un mot, je vais essayer de ne pas parler trop longtemps pour qu'il y ait une discussion. Nous sommes un mixte de son et de sens. Voilà. Bon, ça c'est assez facile. La voix, c'est par définition un mixte de son et de sens. Et je ne sais pas ce que vous entendez dans ma voix maintenant que je vous parle, mais vous entendez surtout quelque chose que vous pouvez penser. Il y a évidemment autre chose. Vous entendez peut-être quelque chose qui m'entraîne, quelque chose qui est mon rapport au temps, un temps particulier qui est celui de la parole quand je vous parle, puisque je ne lis pas un texte. Donc c'est comme si on est dans une dimension, vous voyez là, qui est proche de ce que peut être chanter un aria ou quelque chose de cet ordre. Donc, qu'est-ce qui est en jeu dans notre rapport à l'autre ? Habituellement, je reviens, c'est le sens. C'est-à-dire que nous pensons, nous comprenons, faisons des associations d'idées, et nous pensons à d'autres patients, et nous pensons à quelqu'un d'autre, et nous faisons des rapprochements. Ça va très très vite, c'est-à-dire qu'on se précipite, sans doute pense-t-on trop vite, et qu'on comprend, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose. Hein. Et toute la question, c'est celle de savoir si on reste disponible à autre chose. Si on peut entendre quelque chose, qui, ce quelque chose-là qui est insaisissable, évidemment, c'est insaisissable, le sens est saisissable. Mais ce quelque chose qui est insaisissable, est-ce qu'il est possible de l'entendre quand même ? Et si on l'entend, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est plus pris dans le sens. Bon, ça c'est une expérience, effectivement, que je ne peux pas démontrer, que je ne peux que essayer de vous montrer pour le moment. Parce que ça c'est indémontrable, hein. Alors on pourrait renvoyer à ce mathématicien scientifique Cantor en 1794, quand il parle de ça dans la théorie des ensembles et dans les Cantors, je ne vais pas partir là-dessus, ce serait trop compliqué, quand il parle des réels qui nous font toucher à l'infini. Toute l'élaboration de Cantor, c'est l'articulation entre le fini et l'infini. Bon, donc voilà un peu comment les choses peuvent être articulées au sens de cette relation particulière qui relie et qui se lie, est lié à l'idée, qui se lie autrement à partir du moment où il est possible d'entendre. Le problème, c'est que ça ne vient pas comme ça. Et qu'on peut très bien dire, puisque ce que je vous dis, je ne peux pas le démontrer, on peut très bien dire que ça n'existe pas. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment un témoignage que je fais au sens latin du terme testimonium. Testimonium, c'est-à-dire que c'est cette partie de nous-mêmes qui nous échappe complètement, la dimension du sexe, du testis, du témoin. C'est le même mot en latin, testis, testicule, et le témoin. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas contrôler avec sa volonté, c'est ça, à mon avis, que c'est le dire qu'il y a dans ce mot-là, et avec la pensée. Donc il y a quelque chose qui peut être entendu et qui n'est pas enregistrable sur un CD. Ce dont j'essaie de vous parler, c'est pas enregistrable sur un CD. Et pourtant, on ne peut pas l'entendre s'il n'y a pas le son du CD. Donc on a besoin de la voix en tant que quelque chose qui est sonore, et ce qui est en jeu, moi j'appellerais ça la vie, quelque chose qui a à voir avec la vie, c'est quelque chose de particulier qui est dans ce corps qui se crée entre l'émetteur et le récepteur. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que c'est exactement ce que Freud, sans le savoir, décrit quand il aborde en 1905 le processus du bon esprit. C'est-à-dire que le producteur du mot ne peut advenir comme créateur du mot que dans l'après-coup où un récepteur, lui, aura entendu, quoi, pas du tout le sens, quelque chose qui a à voir avec ce que je vous dis, le son, pas le sonore, quelque chose de particulier, une sorte de télescopage au niveau des voyelles qui fait que ça entraîne quelque chose qui a à voir avec la jouissance à écrire comme on veut, hein, c'est jouir, vous savez que ça peut, c'est à la fois ouïr et aussi quelque chose qui dépasse la dimension du plaisir sexuel, évidemment c'est quelque chose de plus élaboré que ça. Donc il y a quelque chose, vous voyez, dans la structure même de l'humain, parce que vous savez que ça c'est important, hein, c'est ce que Freud décrit. C'est tout l'enseignement de Lacan, tout ce qu'il a mis en place, les structures de la passe, repose sur ce mécanisme du bon esprit, l'émetteur, le récepteur. Il sort une formule extraordinaire très tôt. L'émetteur reçoit du récepteur son propre message sous forme inversée. Ben c'est ça. Essayez de comprendre ce que ça veut dire. On n'y arrive pas. Et pourtant, on a l'impression qu'il se dit quelque chose. Parce que, ben, évidemment, le penseur que nous sommes va dire l'inversé, c'est simplement quelque chose qui se retourne. C'est pas ça du tout, à mon avis. C'est que ce qui arrive au récepteur traverse en quelque sorte le plan de la compréhension dans lequel nous sommes habituellement, puisque même si nous sommes dans des espaces à 2, 3, 4 dimensions, en fait, nous sommes toujours, comme le disent les Grecs, morés géométrico, c'est-à-dire dans un espace à 2 dimensions, qui est celle du plan, qui est celle du nom, comme nommons, nous référons à signifier. Nous sommes toujours dans le 2, même si nous pensons qu'il y a du 3, et le 3, en fait, apparaît, c'est mon expérience, c'est mon témoignage, à partir du son. Ce que Lacan appelait la signifiance. Et c'est ça, cette formule, l'émetteur reçoit du récepteur son propre message sous une forme inversée, ça veut dire qu'on a traversé, pour ceux qui connaissent la traversée du fantasme, on a traversé un plan, on est dans un autre champ, que justement Cantor appelle l'existence, et que j'ai référence, disons que ce n'est pas hypoanalyste, ce sont des mathématiciens, existence du savoir de l'autre, et c'est cette existence du savoir de l'autre qu'on peut toucher du doigt. Comme ça, je dirais, évidemment sans le prévoir, sans le savoir, et je suppose que c'est ça qui m'a mordu ce jour-là, et c'est ça qui continue à me mordre et qui m'a fait partir comme ça, et partir je ne sais pas où, parce que je ne sais pas où, dans cette expérience de ténor lyrique. Parce que qu'est-ce qui se passe, et je vais m'arrêter là-dessus, parce que qu'est-ce qui se passe quand on chante, on chante. Ça pose la question, qu'est-ce que c'est que la musique? Je vous dis, la musique, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas ce qui est écrit sur la partition. Pourtant, il faut bien la partition. La preuve, c'est que vous aurez des interprètes différents qui vont faire entendre des choses différentes. Eh bien, quand on chante, on est dans cette position, hein, pensez à cet autre espace-là, cette dimension qu'on appelle du 3, enfin, des choses, cette dimension de cette substance jouissante qui est créée. Quand on chante et que la voix, c'est la voix, ce qui est produit, et qui apparaît au récepteur, dans les meilleurs cas, comme clair, rond, avec de multiples reflets qui sont les reflets des harmoniques qui se chevauchent. Une rondeur, une qualité extraordinaire. Moi j'entends surtout ça par exemple avec Pavarotti, essentiellement, c'est ma sensibilité. Hein. Eh bien, quand vous chantez et que vous produisez ça, vous n'entendez pas ça du tout, vous entendez quelque chose de sombre, puisque ça part de votre corps, de votre ventre, de vos tripes, hein, puisqu'on ne chante pas avec la tête, on chante avec autre chose, hein. Et donc c'est quelque chose qui fait que celui qui produit, comme dans notre esprit, ne pourra être authentifié comme créateur que parce que quelqu'un, pour ça le public, le récepteur, aura entendu quelque chose de particulier qui est, appelons ça comme ça, ce mouvement que vont transmettre, alors plus particulièrement, je crois, les techniques de chant de bel canto, c'est-à-dire de chant italien, notamment, du 19e, alors 19e, c'est Puccini, Verdi, Donizetti, etc. Enfin, ça vous situe un peu les choses, la Traviata, Tosca, Elisir d'Amour, etc. Eh bien, tout ceci qui apparaît plus particulièrement, comme vous savez, l'opéra part au 16e siècle en Italie, donc là nous sommes 18e, 19e, il y a quelque chose effectivement d'une générosité qui produit ce son particulier, et ça ne peut pas marcher avec la pensée. Voilà, je m'arrête là-dessus.